France. Bienvenue, nous sommes le vendredi 2 septembre, voici les titres de votre journal local avec Charlotte Folana. Bonjour Charlotte.
Bonjour Kevin, bonjour à tous. À la une, ce vendredi, on s'intéressera à la rencontre entre Édouard Fritch et le ministre des Transports Clément Beaune, ce vendredi à Paris. Au cœur des discussions, l'attribution du marché de l'aéroport de Tahiti Faa'a. On évoquera aussi le pays qui veut soumettre l'exploitation minière des fonds marins à un moratoire. Et puis enfin, on parlera d'une conférence sur la cybersécurité et la gestion de crise ce vendredi.
La concession de l'aéroport international de Tahiti Faa'a, une urgence pour le territoire.
Oui, après Gérald Darmanin et Jean-François Carenco, c'est avec Clément Beaune, ministre des Transports, que le président du pays a conclu son voyage parisien ce vendredi. Au cœur des discussions de cette dernière rencontre, le sujet de l'aéroport de Tahiti Faa'a. D'après Édouard Fritch, le ministre en charge des Transports a promis d'aller rapidement sur l'attribution du marché de l'aéroport de Tahiti Faa'a. Pour rappel, c'est l'offre déposée par la Caisse des dépôts et consignations à travers sa filiale Aegis qui avait remporté l'offre en septembre 2021. La CCISM, candidat concurrent, avait déposé un recours dans la foulée et les tribunaux administratifs de Papeete avaient prononcé l'annulation de la concession Aegis. Cela fait deux fois que la concession de l'aéroport de Tahiti Faa'a est annulée par la justice en moins de cinq ans. Et puis parmi les autres sujets évoqués entre Édouard Fritch et Clément Beaune, les travaux sur les pistes des aérodromes transférés au pays et la continuité territoriale intra-insulaire. Sur ce dernier point, le ministre pourrait faire le déplacement à Papeete pour se rendre compte des difficultés que nous pouvons connaître compte tenu de l'éparpillon de nos îles, a souligné Édouard Fritch. Et alors que le président de la République doit s'entretenir avec les élus des territoires de l'Atlantique et de l'océan Indien le 7 septembre prochain, Édouard Fritch a annoncé qu'une autre réunion pourrait avoir lieu avec les territoires du Pacifique fin septembre, début octobre.
Le pays veut soumettre l'exploitation minière des fonds marins à un moratoire.
C'est un projet de délibération initié par le président Édouard Fritch et qui a été soumis à l'avis du CESEC ce matin. Il a pour objet d'interrompre toute activité de mise en œuvre de l'exploitation minière des grands fonds marins jusqu'à accomplissement de certaines conditions. Elles sont d'ordre environnemental, légal et social. Pendant les discussions, le principe d'un moratoire n'a pas fait l'unanimité et donne lieu à un avis non qualifié. Pour le président de la Fédération des associations de protection de l'environnement, c'est une interdiction de l'exploitation minière des fonds marins qu'il faudrait.
On est pour interdire complètement l'exploitation des fonds. Le moratoire, c'est déjà quelque chose de très bien que le gouvernement lance. Maintenant, on s'inquiète quand même sur la suite. C'est-à-dire que mettre un moratoire, ça signifie aussi on n'est pas d'accord aujourd'hui, mais on le sera après. On a suffisamment fait de dégâts en terrestre. On n'a pas commencé à aller polluer également le fond. Les risques sont trop gros pour se permettre d'aller le faire aujourd'hui. On est pour une exploration sur les fonds marins pour identifier la faune marine et toutes ces choses.
Le projet de délibération va également fortement dans le sens de la protection de l'environnement. Le ministre de la Culture et de l'Environnement tient à expliquer cette décision d'instaurer un moratoire plutôt qu'une interdiction. Selon lui, le pays est totalement opposé à l'exploitation minière de ses fonds marins et il est le premier parmi les membres du Forum des îles du Pacifique à instaurer une telle réglementation. Le président espère en inspirer d'autres et notamment Kiribati et Nauru qui se sont déjà engagés dans l'exploitation minière et ne peuvent donc plus l'interdire. En revanche, le pays est lui favorable à l'exploration des fonds marins afin d'y répertorier la biodiversité mais aussi de renommer différents sites. Autre question soulevée lors de la séance, qui de l'État ou du pays a la compétence sur les fonds marins concernés? Eremoana Maatuayatutapu est clair, c'est bien le pays qui est compétent. Mais c'est d'ailleurs que se pose la question selon Winnie Kissage qui évoque la notion d'extension du plateau continental.
L'extension du plateau continental, c'est une revendication de plusieurs pays qui disent qu'en fait, on a utilisé un critère administratif qui mesure, on dit 200 000, mais en fait, il y a un plateau continental qui va au-delà des 200 000, qui permettrait aux pays d'étendre leurs zones maritimes. C'est ce qu'on appelle l'extension du plateau continental. Donc, au-delà des 200 000, on a encore 150 miles qui pourraient appartenir et être gérés par les pays. Et pour la Polynésie, justement, toute la partie est, c'est pas rien, c'est énorme. Certains semblent dire que cette extension des 150 miles pourrait revenir à l'État. Je pense que le pays va se battre pour dire non. S'il y a une extension du plateau continental, c'est une extension aussi de la ZEE, donc ça fait parler de la Polynésie.
La consultation publique sur l'avenir de Témé en bonne voie.
Première victoire pour la fédération Tae Yautia Morea et 5 élus de l'opposition au conseil municipal de Morea. Leur pétition réclamant une consultation officielle des habitants de l'île sur l'avenir de la plage de Témé a recueilli 2800 signatures, soit une centaine de plus que nécessaire, car il fallait rassembler au moins un cinquième des électeurs. Mais dans la réglementation, rien n'oblige le maire à organiser cette consultation publique. Écoutez Raïti Buchin, président de la fédération d'associations Tae.
Nous avons recueilli au travers de tous nos commerçants qui nous soutiennent, tous les points de vente autour de l'île, des amis, le comité directeur du Tahé, les paroisses protestantes, plus de 2800 signatures, largement ce qu'il nous faut, pour demander au maire de mettre en place une consultation populaire. Ces signatures ainsi que les demandes, les notices qui étaient demandées ont été déposées par les 5 élus mercredi. Il appartient au maire maintenant déjà d'accepter que ce point soit inscrit au prochain conseil municipal du 29 septembre. Et ensuite, à lui et au conseil municipal de décider si une consultation populaire sera organisée pour le devenir de Morea.
Les associations de Morea rappellent au maire ses promesses de transparence et espèrent voir ce point inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil municipal du 29 septembre. Son président regrette aussi une communication parcellaire.
On communique que sur les projets où on a donné un avis défavorable, mais il y en a tout un paquet qui ont eu un avis favorable. Il y en a encore d'autres qui ont reçu des avis favorables, mais dans même les médias, encore moins la population n'est au courant. Mais ce qu'on demande, c'est une transparence totale, que c'est pas on communique quand on veut bien, c'est quand on communique sur tous les projets.
Et toute l'interview est à retrouver sur notre site radio1.pf.
Crash Air Montréal est prévenu, condamné à des peines allégées.
Après 15 ans de procédure, le procès du crash d'Air Montréal qui avait fait 20 disparus s'est terminé ce jeudi avec l'ultime décision de la cour d'appel de Papeete. Les 4 prévenus ont écopé de 36 mois de prison avec sursis et l'interdiction définitive d'exercer une activité en rapport avec l'aérien. Air Montréal est condamné à payer 25 millions de francs d'amende. Les 4 responsables impliqués ont 5 jours pour saisir la cour de cassation. Passé ce délai, cette affaire sera définitivement terminée sur le plan pénal.
Une cérémonie aux bougies pour protester contre la violence envers les femmes.
Oui, le Conseil des femmes organise une cérémonie ce vendredi au parc Paufeuille de 17h30 à 19h30 pour manifester sa tristesse et sa douleur suite au décès d'une femme sous les coups de son conjoint. On vous en parlait en début de semaine, le drame est survenu à Bora Bora le 29 août dernier. Une quinquagénaire a été poignardée mortellement par son compagnon qui était alcoolisé au moment des faits. L'auteur présumé âgé de 49 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire à Nouhoutania. Lors de cette cérémonie de vendredi, le mot d'ordre sera donc « tolérance zéro » face à ce féminicide de trop et à toute forme de violence. Une marche, des chants et des prières seront prévues. Il est demandé aux participants de se vêtir en blanc et d'amener une bougie.
Une conférence sur la cybersécurité et la gestion de crise.
Ce vendredi, Alain Bauer, professeur de criminologie qui dispense ses conseils de l'Europe aux États-Unis, doit animer une formation à la gestion de crise auprès de responsables de l'administration du pays. Car concernant les cybermenaces, les attaques sont en pleine explosion au niveau mondial et la Polynésie n'est pas isolée. Pour l'expert de passage pour la 3e fois au Fénois, personne n'est à l'abri.
C'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'arrive pas, c'est parce que ça n'est pas suffisamment spectaculaire que ça n'arrive pas. Pourtant, au cours des quelques derniers mois, vous avez eu une grande banque, une grande usine de jus de fruits, des entreprises qui n'ont pas été identifiées du fait de l'importance des menaces, et puis des dizaines, des centaines, des milliers de victimes individuelles. Le jour où on a connecté un téléphone, un internet, un ordinateur en Polynésie, on est devenu global. La Polynésie n'a pas été isolée du reste du monde. Elle s'est connectée au reste du monde. Elle a donc les mêmes risques, les mêmes menaces et les mêmes problématiques.
Un autre thème sera abordé ce vendredi, celui de la gestion crise. Donc, car d'après le professeur en criminologie, c'est une matière dans laquelle l'administration polynésienne n'excelle pas, loin de là. Selon Alain Bauer, seul un changement de culture peut aider la Polynésie à avancer.
Alors on sait super bien gérer l'imprévu, mais on se refuse à se préparer à gérer l'imprévu parce qu'on se dit, c'est ce que j'appelle la pensée magique, que si on ne se prépare pas, il ne va pas nous voir. C'est très étrange, c'est un truc très français. Les anglo-saxons vous expliquent qu'il n'y a pas de problème, la crise est possible, combien ça coûte. Les français vous expliquent qu'elle n'est pas possible, qu'elle ne va pas arriver. Que surtout, il ne faut pas se préparer parce qu'elle pourrait nous voir. C'est un vrai sujet de culture. Alors c'est valable pour à peu près tout. Il faut se rappeler qu'en 2010, nous étions totalement prêts à une crise pandémique majeure. Elle n'a pas eu lieu. Donc on a décidé qu'elle n'aurait plus jamais lieu. Donc on a détruit avec détermination ce qu'on avait mis 10 ans à construire avec détermination.
Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site radio1.pf. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Le retour de l'information, ce sera à 16h pour le Flash Local. Très bon week-end à tous.
Merci beaucoup Charlotte.